Vous le savez, le Rendez-vous Tech est entièrement financé par ses auditeurs et pas par des sponsors ou des sociétés tierces. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Eric EMK, Bovard 121, Frédéric Camblor, Michael Kaiman, Didier Nowak, Hockenheim et Mataki. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. C'est grandement, grandement, grandement apprécié. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toutes les semaines en une heure environ, toute l'actualité tech, internet et gadgets. On lit tous les articles, on écume tous les blogs, on regarde toutes les news, on en tire ce qui est intéressant et important et on vous le livre d'une manière qui, j'espère, est agréable et distrayante à écouter, de manière à ce que vous puissiez vous informer en vous amusant et en faisant d'autres choses, puisqu'en podcast, on peut par exemple faire le ménage, faire la vaisselle, faire son jogging, être dans les transports. C'est franchement la solution idéale à tous vos problèmes. Bon, tous vos problèmes tech, une partie de vos problèmes tech, quelques... Bon, c'est pas vraiment une solution à des problèmes, mais c'est cool quand même, je pense, le Rendez-vous Tech. Je m'appelle Patrick Béja et aujourd'hui, on va vous parler de cette histoire dont on ne sait pas trop quoi penser, de hack chinois avec des puces révélées par Bloomberg, mais démenties par l'ensemble de la Terre, j'ai l'impression. On a aussi les annonces fracassantes de Microsoft, des rumeurs sur la conférence Google qui, encore une fois, a lieu quelques heures après qu'on enregistre l'émission. Donc, bon, on va passer un petit peu rapidement dessus parce qu'on saura tout vraiment dans quelques heures. D'autres petites news comme le projet xCloud, le renommage des différents types de Wi-Fi qui est une bénédiction et plein d'autres petites choses. Et pour m'aider à dépatouiller tout ça, j'ai un journaliste professionnel spécialiste de Microsoft et de Google. Donc, quelqu'un d'idéal qui couvre toutes les caractéristiques nécessaires. À savoir Kassim Ketfi. Comment ça va, Kassim ?
Ça va très bien. Bonjour, bonsoir à tous.
Oui, bonjour. Oui,
j'écoutais ton introduction et c'est exactement comme ça que j'écoute les podcasts. Moi, c'est en faisant le ménage, en particulier en faisant l'aspi, c'est quand même vachement pratique.
Ben voilà, l'aspirateur, passer l'aspirateur, c'est censé être quelque chose d'un petit peu pénible. Là, vous le transformez en quelque chose d'agréable. C'est les douces voix de moi et de Kassim qui sont dans vos oreilles. C'est magnifique. Bon, Kassim, on a un programme un petit peu chargé et compliqué aujourd'hui et on va commencer par cette histoire révélée par Bloomberg qui... Alors, je ne sais même pas vraiment par quelle boule à prendre cette histoire. J'imagine que certains auditeurs en ont entendu parler, mais c'est quelque chose d'assez invraisemblable. Avant même de se lancer dans la description, je sais que ce n'est pas très... très idéal de faire comme ça, mais toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette histoire quand tu en as entendu parler la première fois ?
Le réflexe évident quand tu es journaliste et que tu vois cette info passer, surtout quand tu es déjà dans les transports en commun pour rentrer chez toi, c'est « alors vite, il faut que je l'envoie sur le Slack de la boîte, attention les gens, il faut le faire vite ». Donc c'était à peu près comme ça que j'ai vécu la chose. Après, il y a eu très rapidement cette histoire de démenti. Donc, enfin, tu vas probablement en parler quand tu vas présenter l'information, ouais. Mais
c'est vrai que
cette histoire, au-delà de l'histoire en elle-même, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est finalement le conflit entre deux faces de l'histoire, en fait.
Je suis assez d'accord avec toi. C'est l'histoire elle-même. Bon, elle n'est pas vraiment confirmée, donc on ne sait pas très bien comment l'approcher. Mais l'élément essentiel, c'est ce conflit assez sans précédent, en fait, dans ce type de sujet. Ça ne s'est jamais passé exactement de cette manière. Alors, bon, j'arrête le suspense. De quoi s'agit-il exactement ? Bloomberg a publié la semaine dernière... c'était le jeudi de la semaine dernière, un long article qui fait suite à une longue enquête sur une puce qui serait présente, une toute petite micro-micro-puce qui serait présente sur les cartes mères de serveurs de nombreuses sociétés américaines, dont Apple et Amazon, mais pas seulement, et qui serait, dont le but serait, qui aurait été placé là par des subterfuges divers, par le gouvernement chinois, ou en tout cas une branche de l'armée chinoise. Et donc son but serait de permettre l'accès, de modifier les signaux qui passent par ces cartes mères pour permettre l'accès aux serveurs sur lesquels ces cartes mères sont installées. Alors, comment est-ce que cette enquête a été menée, d'après Bloomberg encore une fois? C'est par des journalistes qui ont passé plusieurs, de longs mois et voire plusieurs années à réunir de nombreuses sources. Amazon aurait eu dans l'idée d'acheter une société qui fait du matériel de compression vidéo. Dans le cadre de cette intention d'achat, ils auraient fait une enquête de due diligence, on dit en anglais, d'assurance qualité ou d'assurance légale sécurité, tout ce qu'on veut, et ils auraient mandaté une société pour étudier la sécurité du matériel vendu par cette société. Ce faisant, ils découvrent que sur l'une des cartes mères, il y a une puce dont ils ne savent pas à quoi elle sert. Cette carte mère provenait d'une autre société, la fameuse société Supermicro, dont on parle beaucoup, dont le nom ressort beaucoup dans cette histoire. Et cette société Supermicro aurait vu installer sur cette carte mère cette puce-là, mais pas chez ses fournisseurs habituels en Chine, pas chez ses fournisseurs de cartes mères, chez ceux qui fabriquent les cartes mères habituellement, mais par ceux que ces fournisseurs utilisent quand ils sont en surcapacité. Donc on parle vraiment d'un cheminement assez alambiqué, et le gouvernement ou les autorités militaires chinoises auraient utilisé donc ces contracteurs pour infiltrer cette puce qui ensuite permettrait de modifier suffisamment les instructions de la carte mère pour permettre en fait d'ouvrir un backdoor sur le système sur lequel elles sont installées. La carte mère est effectivement la puce en question est effectivement absolument minuscule, il est très difficile de la déceler, et c'est une histoire qui est qui a tout de la sensation du sensationnalisme nécessaire à faire une histoire scandaleuse. Pardon Kassim, tu voulais dire quelque chose déjà?
C'est le scénario d'un film américain quoi, d'espionnage quoi, c'est...
Oui, exactement. Oui, on est pile quoi. dans ce type de contexte. Donc ça, c'est l'histoire qui est rapportée par Bloomberg avec, il faut le signaler, de nombreuses sources. Alors d'après eux, hein, parce que bien sûr, dans ce genre de contexte, les sources restent anonymes. On parle de questions de sécurité nationale, d'accès à des sujets hautement sensibles et des sujets qui pourraient valoir, on imagine, des renvois, des peines de prison ou peut-être même plus graves, des mises en danger si on avait les noms. Donc il est compréhensible que les sources restent anonymes, mais Bloomberg assure avoir enquêté sur des choses qui sont passées sur une période de plusieurs années, de 4 ans, et avoir, ils disent, 17 ou 18 sources différentes qui confirment et qui corroborent les faits à travers les différentes sociétés et agences nationales. Donc, il ne s'agit pas d'une chose qu'on peut balayer de côté facilement. Suite à ça, et assez immédiatement suite à ça, Bloomberg avait déjà les réponses des sociétés en question et du gouvernement chinois avant d'avoir publié l'article, si je ne m'abuse, mais ils en ont ajouté plus ensuite, je veux dire les sociétés. Il y a eu des démentis extrêmement forts de la part de toutes les sociétés et organismes nommés. C'est-à-dire que Apple a démenti comme jamais ils ne le font, avec une force vraiment très importante. Amazon a démenti également. Le gouvernement chinois a démenti fortement, ce qui est peut-être plus attendu dans ce type d'affaires. Les autorités américaines ont démenti, peut-être avec des termes un petit peu moins forts. Ils ont utilisé des termes comme « nous n'avons pas de raison de douter que les démentis d'Apple ou d'Amazon soient faux ». Ce qui est une manière un petit peu alambiquée de dire les choses. Apple dit dément point par point les accusations de Bloomberg. Donc on se retrouve dans une situation, je dirais, inhabituelle parce que On a une société, une agence de presse, enfin un organisme de presse qui est respectable, dont on ne peut pas imaginer qu'ils publient ce type d'articles et d'accusations sans avoir vraiment fait leur travail, sans avoir confirmé leur suspicion de manière vraiment, pas indéniable, mais de manière en tout cas à ce qu'ils soient certains de leur coup, assez certains de leur coup pour mettre en jeu leur crédibilité. Et d'un autre côté, on a effectivement des démentis qui sont nombreux, inhabituels dans leur force et qui mettent, pour le coup, je pense qu'on n'est pas dans l'habitude de simplement prendre le démenti d'une société au mot, parce que sinon, on ne publierait jamais rien. Toutes les sociétés et tous les organismes, et, enfin, c'est le boulot du journaliste d'aller trouver ceux que ne veulent pas, ceux que les sociétés ne veulent pas qu'on trouve. Et, enfin, je dis les sociétés, mais ça ne touche évidemment pas que les sociétés. Mais c'est vrai que les démentis sont tellement forts et spécifiques que on ne peut pas s'empêcher de se poser la question, plus que se poser la question. Donc là, moi, je me dédouane. Je ne suis pas, j'ai pas de carte de presse. Je suis pas journaliste. Kassim, est-ce que tu as une carte de presse, toi? Peut-être pas. Tu viens de commencer.
Ça, je pourrais, hein, mais c'est surtout qu'il faut que je fasse les papiers, en fait.
D'accord. Bon. Alors, ton micro ne prend pas le son quand tu commences à parler. Donc, je pense qu'il faudrait que tu baisses un petit peu la porte de bruit du logiciel qu'on utilise. Mais donc, tu es presque, on va dire, quasiment carte de presse, tu es journaliste.
Ah, je suis journaliste quand même. Oui,
voilà. Qu'est-ce que tu en penses de cette histoire avec ton professionnalisme intrinsèque?
Incroyable. Non, déjà, je peux te dire que je ne vais pas te dire qui a raison dans cette histoire. Mais, puisque, tout simplement, on ne sait pas.
C'est pour ça que tu es là, Kassim.
Alors, ce serait l'erreur du débutant de... Non, alors, comme tu as dit, Bloomberg, le truc, c'est qu'on ne peut pas... en fait, il faut prendre conscience du poids. Je pense que peut-être les auditeurs français ne se rendent pas compte, mais Bloomberg a un poids énorme dans le journalisme, surtout le journalisme tech et business. Comment dire quand ils révèlent des choses, tu es obligé de les reprendre très rapidement parce que comme tu disais, ils ne publient pas quelque chose sans un certain niveau de certitude et sans avoir recoupé la chose avec plusieurs sources, même de nombreuses sources.
C'est un organisme de presse respectable. On peut pas juste balayer le truc, comme je disais. C'est pas le blog de Mister Conspiracy qui te sort ce genre de truc. Ouais, c'est ça.
Vraiment, on fait presque pas plus fiable en termes d'organisme de presse à l'échelle mondiale. Donc forcément, on les écoute et tu regardes avec attention ce qu'ils disent, quoi. À l'inverse, comme tu l'as dit, les démentis, faut aussi prendre conscience, je pense, que d'une entreprise, le démenti, il est attendu, si tu veux. Le démenti d'Amazon, Apple et tout ça, on s'y attendait. Ils vont pas dire « Oui, on s'est fait hacker, regardez, oh là là ». Voilà. Donc, ce démenti-là, il est attendu. En fait, ce qui est important, c'est vraiment, comme tu le disais, la force du démenti. En fait, dans le démenti, les phrases qu'ils utilisent, qui font que si jamais... En fait, ils mettent tout leur pion dans le démenti. C'est-à-dire que si jamais l'affaire de Bloomberg, qu'a révélé Bloomberg, se fait confirmer, c'est un gros problème de confiance. Par exemple, Apple, son business se base essentiellement sur... Ils ont vraiment fait de la vie privée, de la défense de la vie privée, leur arme de guerre, quoi, dans les nouvelles technologies. Donc, c'est vraiment... C'est quelque chose de très important pour eux. Il y avait un problème avec leur démenti et qu'on se rendait compte que leur démenti était faux. C'est un gros problème, c'est une crise de confiance envers Apple, dans ce cas-là aussi envers Amazon, etc. Un énorme problème. À l'inverse, pareil pour Bloomberg. Si jamais on se rend compte que l'affaire de Bloomberg, c'était vraiment du pipeau, c'est un gros problème de confiance envers Bloomberg. Je pense trop souligner, c'est aussi l'accusation... Ceux qui n'y croient pas justement à cette affaire de Bloomberg, ils sont du coup plutôt dans le camp de ceux qui démentent d'Amazon et d'Apple. L'accusation ou le risque que Bloomberg s'est peut-être fait entraîner dans une affaire du gouvernement américain qui est actuellement en guerre commerciale avec la Chine et l'administration Trump fait tout pour discréditer la Chine et en guerre ouverte quoi. Et donc cette affaire d'espionnage pourrait avoir aussi été fait pour alimenter l'opinion dans le sens de, vous voyez, il faut faire, faut qu'on une guerre commerciale avec la Chine, etc.
Donc, c'est vrai que bon, l'affaire date quand même ça a commencé sous l'administration Obama. Donc il y a quand même, peut-être que c'est l'administration Trump qui a l'enquête, c'est pas 100% clair je crois s'ils ont commencé l'enquête sous l'administration Obama, mais les faits remonteraient à plusieurs années et à l'administration Obama effectivement. Donc c'est là encore un petit peu difficile à déterminer.
Dans tous les cas, c'est quelque chose qui demandera des enquêtes supplémentaires et dont on va devoir attendre tout simplement les résultats. On ne peut pas là, aujourd'hui, trancher ou vraiment conclure plus que ça. Il faut vraiment juste mettre l'accent sur l'importance de ces démentis et du sérieux habituel de Bloomberg, quoi, pour vraiment comprendre l'affaire.
Je pense qu'on est d'accord. Il y a eu déjà un certain nombre d'articles qui ont essayé de dépatouiller l'affaire tant bien que mal. Pas vraiment de dépatouiller l'affaire, mais d'analyser les choses aussi bien qu'il pouvait. Et ce qu'on en retire, c'est que techniquement, ça serait possible. Ce dont il parle n'est pas si étonnant techniquement. Il y a des problèmes sur la question du... comment dire ? La question de l'acheminement du matériel. C'est difficile de cibler spécifiquement la chose, mais d'un autre côté, si c'est confirmé, si c'est confirmé, il y a la possibilité que ces puces-là soient un petit peu partout dans de nombreux serveurs. Il est possible qu'il y ait quelque chose derrière, mais que les autorités veuillent évidemment veuille éviter la panique, c'est une possibilité. Il est possible également que les gens qui écrivent les démentis ne soient pas au courant, parce que quand on est au courant de ce genre de choses, on a comme instruction très claire de ne pas en informer qui que ce soit d'autre pour qu'il y ait une possibilité de le démentir justement. Encore que ils ont ressorti, et Apple en particulier a ressorti encore des démentis en indiquant spécifiquement qu'ils ne sont pas sous l'effet d'un gag order. Alors ce que c'est qu'un gag order, c'est un ordre du gouvernement de ne pas dire qu'ils sont au courant, même s'ils le sont. Et donc là, ils disent on n'a pas ce type d'ordre, donc vraiment, il n'y a aucune raison de vous mentir. La seule, c'est vraiment difficile à dépatouiller encore une fois, parce que c'est Bloomberg. Pour donner un autre exemple, si, je ne sais pas, Le Monde ou Le Figaro sort une affaire, même incroyable, sur, j'en sais rien, le gouvernement ou une grande société, parce que Bloomberg, ça peut paraître un petit peu loin, mais si on parle de la France, bien sûr, ils peuvent se planter, ils peuvent s'être fait rouler dans la farine, mais on ne peut pas juste dire « Ah, c'est des conneries, il y a des démentis, donc c'est n'importe quoi ». Donc, c'est difficile à concilier toutes ces histoires. La seule chose que je pourrais imaginer, ou en tout cas qui pourrait donner une vague idée d'un moyen de concilier tout ça, je ne sais pas si tu te souviens de l'affaire Snowden, et des tout débuts, des premiers jours de l'affaire Snowden, où, selon les leaks, il y avait une affirmation que le gouvernement américain avait un accès direct aux serveurs de AT&T et des opérateurs téléphoniques. Tu te souviens de cette histoire ?
Oui, et justement, enfin oui, les entreprises avaient démenti fermement le fait qu'il y avait un accès direct, parce qu'en fait, l'accès était indirect. Quoi.
Exactement. En fait, c'est pas qu'ils avaient un accès indirect, c'est que l'accès était direct, mais pas directement par l'intermédiaire de ces sociétés. Ils avaient des petits serveurs, des petites boîtes qu'ils posaient en amont des gros câbles généraux des sociétés en question. Et donc la NSA ou Dieu sait quel organisme d'intelligence américain posait donc ses boîtes juste à la sortie des immeubles ou dans les serveurs dans les salles de serveurs quand ils réussissaient à s'y infiltrer. Et donc ils avaient accès direct à toutes les données qui remontaient vers ces serveurs. Mais évidemment, les sociétés en question n'étaient pas au courant. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui s'approcherait de ce type d'interaction. En conclusion, je dirais qu'il me paraîtrait quand même extrêmement improbable qu'il n'y ait absolument rien derrière cette histoire. C'est possible, bien sûr, mais ça me paraîtrait improbable. Donc, ça serait ma conclusion sur ce truc. Est-ce que tu veux un dernier mot sur l'histoire avant qu'on parle de Microsoft ?
En parlant de Microsoft...
Pardon, je n'ai pas bien entendu.
J'ai dit parlons Microsoft.
D'accord, ok, bon bah. Voilà. Parlons de Microsoft du coup. Microsoft a donc fait une conférence il y a quelques jours de ça. Et cette conférence était également une sorte de... Comment dire ? De puzzle, parce que j'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Ils l'ont annoncé en amont. Ils ont dit qu'il allait y avoir... on savait qu'il allait y avoir des annonces sur les surfaces. Et au final, juste avant la conférence, juste avant le début, on s'est rendu compte qu'elle ne serait pas streamée en live. Ce qui est quand même devenu inhabituel aujourd'hui dans le monde des conférences tech. Mais peut-être que c'était bien joué pour Microsoft, parce qu'en fait, ils avaient très peu de choses à annoncer, peut-être que c'était intentionnel, parce qu'ils n'ont annoncé quasiment que des mises à jour de leur matériel existant, et malgré ça, comme tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait un streaming live, tout le monde avait préparé ses pages web, tout le monde avait préparé ses live blogs, etc. Et donc, on l'a fait quand même, plus ou moins en essayant de suivre ce qui se passait de l'intérieur avec les journalistes qui y étaient. Et donc, ils ont eu, je pense, un petit peu plus de couverture que s'ils avaient juste annoncé les produits. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose de neuf, je crois. Mais c'est toi le spécialiste. Peut-être que tu peux nous dire de quoi il s'agit dans cette conférence, Kassim.
Bah, en tout cas, tu as bien cerné le truc, c'est clairement ils n'ont pas fait de streaming en direct parce qu'ils ne voulaient pas faire monter trop la hype parce qu'ils n'avaient pas grand-chose à annoncer, clairement. Là, ce qu'ils ont annoncé, c'est vraiment des petites mises à jour très légères de leur Surface Pro, Surface Laptop et Surface Studio. Donc on a le Surface Pro 6, la seule nouveauté, c'est que le processeur change de génération et que maintenant il sera disponible en noir, alors qu'avant, la seule couleur des surfaces depuis la première, toute première surface, couleur grise, donc qui est d'ailleurs un peu, enfin qui était devenue un peu la couleur représentant qui permettait à Microsoft de se différencier un petit peu du reste du marché. Donc là, ils reviennent à cette finition noire. Voilà.
C'est vraiment. Attends, excuse-moi, je t'interromps, mais c'est vraiment l'annonce de cette conférence que les matériels ont des processeurs plus puissants et sont disponibles en noir, en fait.
Mais c'est ça, le Surface Pro 6 par exemple, c'est la seule nouveauté. Surface Laptop 2 aussi, le design ne change pas du tout, et en particulier ce qui a été épinglé, c'est le fait que quand ils disent que le matériel ne change pas du tout, c'est que c'est les mêmes ports qu'avant, et donc il n'y a pas de port USB type C par exemple, qui est quand même la nouvelle connectique universelle que l'on retrouve maintenant sur l'ensemble des par exemple tous les PC neufs de cette gamme de prix, puisqu'on parle de machines vendues autour de 1 000 € à peu près, à partir de 1 000 € en tout cas. Toutes les machines neuves dans cette gamme de prix proposent de l'USB type C avec du Thunderbolt derrière, enfin peu importe, mais ils proposent au moins de l'USB type C, quoi.
Donc,
c'est absent complètement.
Ouais. Donc on a mise à jour du Surface Pro 6, mise à jour du Surface Laptop 2 et mise à jour du Surface Studio 2. C'est de bonnes machines, mais effectivement on n'a pas de changement de design ou de modifications vraiment intéressantes. Mais je te vois bien, mauvaise langue, petit troll qui aime bien dire du mal de Microsoft. Tu dis qu'il n'y a rien de nouveau, ou c'est peut-être moi qui ai dit qu'il n'y avait rien de nouveau, mais il y a quand même quelques trucs un petit peu différents. Ils ont des casques qui s'appellent les Surface Headphones, qui ont l'air un petit peu intéressants. Le Surface All Access Programme qui donne en fait un achat sur une période de 24 mois, c'est un peu Surface as a Service. le et quoi d'autre, l'application MyPhone sur Android qui permet de faire du mirroring d'applications sur Windows 10. Il y a quand même des petites choses intéressantes là-dedans, non?
Non, c'était vraiment sur les gros produits, enfin, ce qui fait leur gamme actuelle, c'était vraiment que ce qu'on appelle des refresh, quoi. C'est juste, ils ont changé le processeur à l'intérieur, quoi. Mais effectivement, la vraie nouveauté pour moi de cette conférence, pas streamée en live, c'était les Surface Headphones, donc un casque anti-bruit vendu à autour des $350, qui est donc en concurrence directe avec les meilleurs casques de Sony et de Bose, qui sont actuellement vraiment les casques qu'on recommande sur cette gamme de prix. Donc c'est le Quiet Comfort 35 de Bose, par exemple, qu'on voit partout dans les transports en commun, qui sont ces casques Bluetooth faciles à appairer, qui t'isolent complètement en termes de bruit, qui sont élégants. Ils se lancent sur ce marché un peu bizarrement, parce qu'on ne s'attendait pas à voir Microsoft se lancer dans les casques audio, quoi. Alors la raison derrière tout ça, c'est tout simplement que ce casque, il a été conçu en fait depuis plusieurs années en parallèle avec leur appareil mobile, le fameux Andromeda dont tu avais déjà parlé dans l'émission, cet appareil
C'est ce que j'ai entendu pliable. Aussi, ouais. C'est le fameux, l'héritier du courrier d'il y a quelques années, en fait, un appareil pliable avec deux écrans, ou plutôt un écran qui se met sur la longueur et qui se replie en deux pour pouvoir tenir dans la poche.
Ça. Et en fait, ce produit mobile, il est en conception à chez Microsoft. Il se refuse à le sortir tant qu'il ne pense pas pouvoir en faire quelque chose qui fonctionnerait commercialement. Mais du coup, le casque qui a été conçu en parallèle, bah, lui, il peut fonctionner de façon autonome, quoi. Ils peuvent le lancer comme ça.
Donc, c'est un casque à Cortana aussi, d'ailleurs. Je ne sais pas si on l'a mentionné, mais il a...
Oui, il y a Cortana intégré. Cool, mais en fait, dans la mesure où personne n'utilise Cortana, je ne sais pas vraiment quel intérêt ça aurait, à part le fait que, bah, du coup, il sortira pas tout de suite en France. Enfin, il n'est même pas du tout annoncé pour la France, puisque Cortana n'est pas disponible en France sur la version mobile, c'est-à-dire sur iOS et Android.
Mmh.
Donc,
on verra. Et que penses-tu de la... Pardon, je t'ai interrompu, excuse-moi, vas-y.
Le casque, moi, que je trouve très intéressant, c'est molette sur les côtés. C'est vraiment assez représentatif, je trouve, de l'ingéniosité des ingénieurs de Surface. Enfin, j'aime bien toujours leur petit différencier. On se souvient du Surface Book avec son écran qui se détachait du clavier. Enfin, voilà. Ils ont toujours des petites idées. Là, c'est des molettes de chaque côté qui permettent de régler le volume et de régler l'intensité de l'isolement sonore, enfin, de l'anti-bruit. Et je trouve ça assez bienvenu, c'est assez intuitif, je trouve, de juste à faire rouler son casque, enfin la molette sur le côté gauche de son casque, par exemple, pour augmenter le volume.
Et oui, tu le disais, le volume et le niveau de suppression de bruit, en fait. Donc, c'est ça qui peut être un petit peu différenciant pour le produit. Donc, le fait de pouvoir faire du mirroring d'applications... d'application Android, ça a pas l'air de te plaire particulièrement.
De m'enthousiasmer particulièrement. Ouais. C'est une continuité de ce qu'ils font sur Windows 10. Je trouve ça bien. Android est vraiment en train de devenir leur plateforme mobile officielle maintenant que Windows Phone est définitivement mort. Mmh. Mais du coup, moi, je trouve que c'est plutôt la synchronisation des SMS qui est déjà présente là dans la mise à jour d'automne de Windows 10 qui m'intéresse plus que enfin là le mirroring je sais pas si je l'utiliserais mais la synchronisation des SMS par contre
pour expliquer spécifiquement de quoi il s'agit, c'est-à-dire que on a l'application MyPhone sur notre téléphone Android, on se connecte à notre ordinateur sous Windows avec le téléphone et on peut je sais pas si c'est toutes les applications ou certaines applications mais utiliser certaines applications de notre téléphone qui s'affichent sur l'écran de notre PC. C'est bien de ça dont on parle, hein.
Ouais, tout à fait. Ouais. C'est par exemple super idéal pour faire une démonstration d'une application sur ton ordinateur. Enfin, il y a plusieurs usages possibles, quoi. Mais ouais, c'est exactement de ça dont on parle.
D'accord. Bon, moi, je pense que ça peut être intéressant quand même dans certains cas. Mais oui, ce qui est particulièrement notable, c'est la synergie qui est en train de se créer entre Windows et Android. Je suis sûr qu'ils le feraient aussi sur iOS si iOS était aussi ouvert qu'Android. Mais bien sûr, ils peuvent pas le faire. Bon, je crois que c'est à peu près tout pour cette conférence Microsoft. On doit aussi noter le fait que la mise à jour d'octobre a été retirée suite à des rapports selon lesquels la mise à jour effacerait certains fichiers. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à vous inquiéter de savoir si elle a été installée ou pas. Ils ont retiré la mise à jour de leur serveur, donc ils la remettront quand ils auront trouvé la raison. Mais oui, c'était la fois où ils ont décidé de ne pas faire une release candidate en test, parce que c'était une toute petite mise à jour. Visiblement, il y a eu ce type de pouvoir. Donc
voilà. Non, mais c'est un problème récurrent. Alors, pour le coup, c'est quand même un problème qui commence à devenir récurrent chez Microsoft, parce qu'il y avait eu aussi des problèmes techniques à la sortie de la mise à jour en avril, de la précédente mise à jour de Windows 10. Donc, ils ont vraiment des soucis, je trouve, de correction des bugs sur la sortie de la mise à jour. En général, dès que la mise à jour en fait est dans la nature et d'un coup concerne des millions de machines, il y a des bugs qui se détectent qu'ils ne pouvaient pas détecter en interne, ça c'est normal. Le souci, c'est qu'ils ont le programme Insider qui permet normalement de tester, enfin qui permet aux fans en fait de Microsoft de tester en avance les mises à jour, et normalement ces bugs devraient être détectés par ce programme là en l'occurrence il y a des personnes qui avaient remonté le bug en fait, mais ils n'ont juste pas été remontés assez à Microsoft. Enfin, il n'y a pas eu assez de votes pour ces bugs-là pour que Microsoft daigne y prêter attention. Et du coup, ça a créé la situation qu'on connaît là. Mais il y a vraiment un problème. Enfin, il va falloir que Microsoft réfléchisse mieux à sa façon de détecter, gérer et corriger les bugs avant les sorties de mise à jour.
Parce que je crois qu'une release candidate qui incite plus de gens à l'installer, ça aurait pu potentiellement régler le problème. Là, ils ont choisi de ne pas le faire.
Oui, donc, mais c'était une erreur, clairement, et il faut qu'ils bossent ce sujet-là, quoi.
Bon, on va continuer dans les sujets passionnants, et avant tout de même de se lancer dans les news et les rumeurs, même si avec Google, on n'est plus tout à fait certain que ça soit encore des rumeurs, mais peut-être juste des news un petit peu en avance, je vais quand même passer un tout petit instant à remercier les auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission et qui la font exister. Sans vous, sans ceux qui vont sur patreon.com/rdvtech et qui choisissent de donner $1, $2 par épisode, eh bien l'émission n'existerait pas. Et parmi tous les patriotes, il y a un témoignage que je voudrais lire aujourd'hui, c'est celui de Freddy Berriot qui nous dit « Hello, plusieurs raisons pour lesquelles je suis patriote. Tout d'abord, je ne rate aucun épisode du Rendez-vous Tech depuis de nombreuses années. Ton podcast me rend service, me fait gagner du temps. À chaque fois que j'entends vaguement parler d'une news tech mais que je ne capte pas tout, je me dis « bon, c'est pas grave, si c'est important, Patrick en parlera dans le Rendez-vous Tech ». Ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir parce que c'est l'une des missions, l'un des buts de cette émission, c'est de se dire ça vous permet de ne rien rater d'important et donc de vous reposer le reste du temps parce qu'on fait le travail pour vous. Il continue, donc ton podcast a de la valeur pour moi. Cela me paraissait malhonnête de ne pas contribuer financièrement vu ce que m'apporte le Rendez-vous Tech. Autre raison est qu'il y a quelques années, j'écoutais assidûment un podcast photo quand l'auteur a voulu monétiser avec un système d'abonnement maison, Patreon n'existait pas, cela n'a pas fonctionné, je n'ai pas participé, le podcast a disparu. Je me suis dit qu'il ne fallait pas que l'histoire se répète. Et puis le système de Patreon est tellement simple, pratique et limpide. Je crois que c'est le meilleur témoignage qui résume le mieux tout ce qu'on peut dire de bien sur ce système et sur les raisons de soutenir l'émission. Donc, je vous laisse apprécier et je vous encourage à faire un petit tour sur patreon.com/rdvtech si vous aimez bien l'émission. Donc on continue avec cette fameuse conférence Google qui aura lieu dans quelques heures maintenant, donc on ne va pas passer trop de temps dessus, mais tout a leaké. On a les téléphones Pixel 3 et Pixel 3 XL. On a la nouvelle machine Chrome OS qui s'appelle le Pixel Slate Tablet. Enfin, le Pixel Slate, c'est une tablette sous Chrome OS. La nouvelle version du Pixel Book. Et comme je disais, la Chromecast qui a été mise en vente aux États-Unis. Et le Pixel 3 qui est carrément en vente à Hong Kong 3 jours avant son annonce et qu'un journaliste de Engadget, si je ne m'abuse, a pu aller acheter et tester un Pixel 3 XL. C'est à un tel point qu'on se demande si ce n'est pas carrément orchestré par Google. Ça paraît peu probable, mais C'est invraisemblable comme série de leaks, là. Kassim, quelle est ton estimation de journaliste averti ?
Bon, il y a une théorie, effectivement, comme quoi Google aurait tout manigancé depuis le début, mais personnellement, je n'y crois pas une seule seconde, parce que déjà, on ne contrôle pas autant les fuites comme ça, enfin, c'est bizarre, là, il y a les fuites, genre le téléphone qui est en vente à Hong Kong, c'est complètement improbable, enfin, c'est pas, voilà. Il y a d'autres façons de faire fuiter volontairement ton téléphone qui seraient plus faciles, quoi, genre tu l'oublies dans un bar, par exemple. Mmh.
Mais ça a déjà été fait, peut-être que justement la vente à Hong Kong, parce que je ne sais pas si tu as vu, mais dans leur vidéo d'annonce de la conférence qu'ils ont mis en ligne aujourd'hui, ils font référence à toutes ces histoires, ils font référence à tous les articles et ils mettent un petit smiley genre embarrassé à la fin.
Vous allez voir ce que vous allez voir, on a encore des secrets, wink wink.
Ils ne disent pas vraiment ça, ils disent juste, c'est juste oui, on est au courant que tout a leaké. Mais en même temps, ça pourrait être « Ah, vous allez voir, on vous a bien eu, effectivement. » Mais ce n'est pas forcément ce qu'ils sont en train de dire. Mais c'est à un tel point que...
Pas une seconde, je pense que s'il y avait eu vraiment un autre produit, selon moi, on en aurait déjà entendu parler. Pour moi, la seule hypothèse où un autre produit mystère serait prévu d'être annoncé à cette conférence, c'est si c'était un produit qui ne serait pas en vente demain, mais par exemple dans 6 mois. C'est la seule façon pour qu'une entreprise américaine puisse vraiment garder le secret. On l'a vu avec Apple, par exemple, je sais pas, sur l'iMac Pro, chez Microsoft avec des produits Surface aussi à l'époque. Simplement, pour qu'un produit ne fuite pas, il faut qu'il soit en conception qu'aux États-Unis avec une petite équipe très rapprochée, que des prototypes n'aient pas encore été fabriqués en Chine pour pas que ça fuite des lignes d'assemblage. Et en fait, c'est des produits du coup, qui sont forcément prévus pour 6 à 12 mois après l'annonce, quoi.
Mais du coup, est-ce que tu penses que ça fuit tellement parce que en fait Google n'a pas l'habitude, ils sont relativement jeunes dans ce type d'entreprise de fabrication de leurs produits eux-mêmes. Tu crois que ça fuit plus que chez les autres juste parce qu'ils n'ont pas l'habitude, c'est ça, et qu'ils savent pas comment bien verrouiller toute la chaîne de production?
Enfin là, je trouve que ça a particulièrement fuité effectivement, notamment le téléphone là, dont on a eu la prise en main complète. C'est un peu le record des fuites jamais, quoi. Mais par exemple, Apple est quand même. Enfin, ça fait quand même quelques années que les annonces d'iPhone. On sait un peu tout avant l'annonce de l'iPhone, tu vois. Enfin,
oui, bien sûr. Mais là, les ventes en général, quoi. Les deux différents produits qui ont été mis en vente avant leur annonce, il y a quand même un problème qui va au-delà de la fuite parce que le produit est très recherché, donc tout le monde essaye d'en avoir un morceau, tu vois. Il y a un problème dans leur chaîne de distribution et de production, quoi.
Ils sont nouveaux, effectivement. En plus, ils changent... il me semble que cette année, justement, ils changent de façon de produire. C'est-à-dire que l'année dernière, si on se souvient bien, les Pixels étaient produits par HTC et LG. Et normalement, cette année, c'est plutôt Foxconn qui s'occuperait de la production des produits. Et donc, c'est peut-être ce changement de façon de produire qui a peut-être aussi causé ces fuites. Impossible à dire. En tout cas, c'est sûr qu'on a tout le détail de... Là, on a même depuis ce matin les prix et la date de sortie en France des deux smartphones, quoi. Puisque, oui, on ne l'a pas dit, qui sera à retenir de cette conférence, c'est qu'ils arrivent enfin en France.
Oui, bah on en avait parlé au moment où la conférence, enfin il a été annoncé que la conférence serait également en duplex en France. Et là, forcément, la seule raison possible est c'est le fait que tu puisses l'acheter en France également. Enfin, j'en vois pas d'autre. Est-ce que vous avez, j'imagine, des gens qui vont aller à la conférence en France tout à l'heure?
Ouais, là c'est vrai que tu le disais en début d'émission, on a un programme chargé pour cette émission, mais c'est un programme chargé pour tout le mois d'octobre. Il y a beaucoup de conférences, beaucoup d'événements d'annonces là qui sont prévus, et donc là oui, nous on a des journalistes qui vont à l'événement parisien.
Et justement, si on parle du reste du mois, on a également une conférence qui devrait bientôt être annoncée par Apple pour leurs nouveaux iPad, MacBook et peut-être d'autres petites choses. On a quelques détails sur les nouveaux iPad Pro, qui incluraient Face ID sans notch, donc l'encoche ne serait pas présente et ils auraient trouvé un moyen de le mettre juste dans le bord de l'écran, qui est peut-être un petit peu plus gros le bord de l'écran que sur les téléphones. Il pourrait faire du 4K HDR par USB-C et il y aurait un nouvel Apple Pencil qui s'appellerait l'Apple Pencil 2, qui serait un petit peu différent. Un port un port magnétique qui aurait d'autres fonctionnalités que le... Comment il s'appelle déjà le port des iPad Pro ?
C'est pas le Smart Connector.
Voilà, c'est ça, qui aurait des fonctionnalités plus avancées que le Smart Connector. Donc voilà, ça c'est les petites rumeurs qu'on a sur les prochains iPad Pro qui devraient pas tarder à être annoncés. Bon, passons aux news et aux rumeurs en général. Microsoft a annoncé son projet xCloud, qui est en fait une version dans le cloud de sa console Xbox One. On savait qu'ils étaient en train de travailler dessus puisqu'ils l'avaient annoncé à l'E3. On ne pensait pas que ça allait être annoncé dès maintenant. Mais bon, c'est encore une preuve de plus que le jeu vidéo en streaming est en train d'envahir l'ensemble de l'industrie, à voir si ça fonctionnera vraiment commercialement. Mais là encore, je ne peux pas m'empêcher, comme je le disais la dernière fois, d'avoir une petite pensée pour Yann, qui ne croyait pas du tout en cette technologie. Bon, elle a mis un petit peu plus de temps à arriver que je ne pensais. Mais comme je le disais, je pense que c'est surtout des problèmes d'offres commerciales, pas tant des problèmes d'offres technologiques. Mais bon, là encore... Je pense que si on veut prendre l'aspect un petit peu plus industrie et société, puisqu'on est dans le rendez-vous tech plutôt que dans le rendez-vous jeu, je me dis que la manière dont Phil Schiller, qui est responsable aujourd'hui du département de la division Xbox... Phil Schiller, qu'est-ce que je raconte ? Phil Spencer, qui est responsable de la division Xbox au sein de Microsoft, la manière dont il a convaincu Satya Nadella de remettre des sous dans la division jeux vidéo, il est allé le voir et il lui a dit « Écoute Satya, je sais que t'aimes le cloud, on va tout mettre dans le cloud. Ça va être du cloud partout, des consoles dans le cloud, les serveurs vont tout faire, et donc c'est Xbox dans le cloud. » Et donc là, on a la concrétisation, je pense, de... Oui, pardon Tu es d'accord ?
Je disais Azure All the Things.
Oui, exactement, Azure All the Things, c'est ça. Oui, vas-y.
Bon, rapidement, juste en deux mots, ce qui est marrant, je trouve, c'est que je pense que l'annonce, comme tu l'as dit, on ne l'attendait pas si tôt. Je pense que l'annonce, elle était prévue pour décembre. Il y a une conférence Xbox en décembre.
C'est en novembre. C'est le 8 ou le 10 novembre. C'est la X018, c'est ça ?
Oui, en novembre, voilà. Je pense qu'il c'était prévu pour cet événement-là et pas pour maintenant. Et en fait, il y a Google qui a annoncé son projet similaire la semaine dernière, son Project Stream, qui est à peu près la même chose. Et d'un coup, en une semaine, ils annoncent ça. Je trouve que ça sent un peu la réaction pour rappeler plutôt qu'eux aussi sont sur le sujet, quoi.
C'est pas faux, oui, peut-être. Bon, on en saura plus, peut-être même l'offre commerciale qui sera lancée bientôt, puisque le projet semble assez avancé. En tout cas, ils ont déjà lancé en test. Ils mentionnent bien le fait qu'ils ont des serveurs dans tous les pays du monde et ils ont déjà ce matériel dans un de leurs serveurs aux États-Unis. Donc, ils semblent prêts à lancer ce test, quoi. L'une des meilleures décisions que la Wi-Fi Alliance ait pris depuis sa création, ça c'est quelque chose qui est vraiment pouvait espérer mais auquel on n'osait pas y croire, ils ont décidé de changer les noms des différents types de réseaux Wi-Fi et de passer de noms complètement obtus comme 802.11ax en des trucs beaucoup plus simples comme Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 et Wi-Fi 6. Ah, c'était quand même pas si compliqué. Il leur a fallu quoi, 20 ans pour réussir à comprendre qu'on ne comprenait rien à ce truc ? C'est invraisemblable. Donc, les Wi-Fi 802.11n, c'est Wi-Fi 4. 802.11ac, c'est Wi-Fi 5. Et 802.11ax, c'est Wi-Fi 6. Et bien sûr, il y en aura d'autres après. Il était
J'espère qu'ils vont s'y tenir et qu'on n'aura pas New Wi-Fi, Wi-Fi Pro,
Wi-Fi X, Wi-Fi 6+, oui, c'est ça. C'est vrai.
Ah, voilà.
Une autre annonce du côté de chez Amazon qui a décidé d'augmenter le salaire minimum de ses employés aux États-Unis et en Angleterre. Je ne sais pas si c'est le cas en France aussi. J'imagine que la législation est peut-être un petit peu plus sévère à ce niveau-là, donc les employés Amazon étaient un petit peu mieux payés déjà en France que leurs confrères américains et anglais. Donc ils montent les revenu de environ $12 à environ $15 par heure, ce qui est quand même une augmentation substantielle. Il y a deux bémols plus ou moins énormes à ajouter à cette annonce. D'une part, ils ont dans le même temps sucré les bonus mensuels et les bonus d'action que les travailleurs pouvaient avoir. Donc en fait, ils ont transféré une partie du salaire dans le salaire nominal, ce qui, bon, on parle quand même souvent de salaire nominal quand on parle de rémunération, donc j'imagine que l'un dans l'autre, si on se plaignait que le salaire était trop bas, je pense que les gens qui s'en plaignaient ne prenaient pas en compte les bonus mensuels et les bonus d'action, etc. Donc c'est de bonne guerre de dire, bah voilà, maintenant le salaire est augmenté, il n'y a pas les trucs que vous ne preniez pas en compte dans vos critiques. Ok. D'un autre côté, il y a quand même aussi le fait que leurs travailleurs sont ils sont eux en concurrence avec d'autres grandes sociétés qui font ce type de travail et que les autres payaient quand même beaucoup plus qu'Amazon. Donc, à la fois, ils ont cet avantage, entre guillemets, fiscal de se dire, bah, on augmente les salaires, mais en fait, de fait, on ne perd pas moins d'argent parce qu'on a les bonus qui sont supprimés. Et d'autre part, c'était une augmentation qu'ils devaient quand même, c'est une interprétation, hein, mais je pense qu'elle voit assez juste, c'est une augmentation qu'ils devaient aller faire de toute façon, parce qu'il il était plus difficile pour eux de trouver les bons employés, parce qu'ils allaient à la concurrence qui payait mieux. Donc c'est quand même un bon coup de com' d'Amazon, à mentionner également le fait que les employés sont mieux payés, mais le boulot est toujours aussi horrible. Si on en croit les nombreux rapports d'employés et d'anciens employés, les conditions de travail sont particulièrement difficiles, et l'augmentation de salaire ne change pas les conditions de travail. Donc c'est important de le signaler également.
On va voir si d'un coup ils autorisent enfin les employés à pouvoir se syndiquer, par exemple aux États-Unis, vu les problèmes qu'il y avait eu là, il y a peu sur ce sujet-là, quoi.
Ça, je ne suis pas certain que ça soit au programme, tu vois.
Mais voilà. Souligner.
Oui, oui, c'est important. On parlait des problèmes de... On l'avait évoqué la dernière fois, des problèmes d'Amazon qui expliquait à ses managers comment détecter et enrayer les tentatives création de syndicats au sein de l'entreprise. Bien sûr, les syndicats aux États-Unis sont assez différents de ceux qu'on a ici. Et clairement, dans ces industries-là, les employés ne sont pas vraiment syndiqués, ce qui leur cause du tort pour défendre leurs droits, évidemment. Peugeot est en train de développer son service de partage d'automobiles à Paris. Alors, ça m'a un petit peu surpris quand j'ai lu cette information, parce qu'on parlait la semaine dernière d'une initiative similaire de Renault. Donc, Peugeot et Renault sont en fait tous deux en train de développer ces services, dans un premier temps à Paris, et puis j'imagine ailleurs ensuite. L'échec d'Autolib, ou le semi-échec ou échec, je ne sais pas si on peut parler d'échec total ou de semi-échec d'Autolib, on aurait pu penser que ça mette fin à ce type d'expérience. Clairement, si Peugeot et Renault y voient quelque chose d'intéressant à faire, y a encore des choses à faire dans le domaine, je crois. Tu m'interromps hein, quand il y a quelque chose que tu veux. Facebook a mis en vente son portail, qui est une sorte de Amazon Echo ou Google Home connecté. Il y a deux versions, une version avec un écran de 10 pouces et une version avec un écran de 15,6 pouces. Alors, il peut utiliser Alexa et des services comme des services de radio, etc., comme Spotify ou le service de vidéocommunication Facebook Watch. Mais il n'y a pas plus que ça. Ce n'est pas qu'on peut utiliser l'écran pour faire d'autres choses que ce type de service. Bon, c'est un Amazon Echo... Comment il l'appelle ? Echo Show, voilà. C'est de celui-là dont on parle. Il y en a aussi un qui est censé arriver chez Google bientôt.
Ce soir, en fait.
Ce soir, voilà. qui sera déjà là au moment où vous entendrez cette émission. Qui va vouloir acheter ce truc de chez Facebook, en fait ?
Et dans ma rédaction, enfin, il y en a qui étaient enthousiastes effectivement de, par rapport à ce produit, dans le sens où bah, c'était un peu le produit facile à vendre à tes parents pour faire du Facebook Messenger, tu sais, en visioconférence facile. Alors moi, personnellement, je ne suis pas du tout enthousiaste. Pour moi, c'est plutôt... Enfin, j'ai l'impression qu'entre ça, comme tu dis, et le produit de Google ou d'Amazon, j'ai un peu l'impression de voir le retour en force des cadres photo numériques, quoi.
Oui.
Et enfin pour moi c'est enfin surtout au prix où c'est vendu, c'est-à-dire entre 200 et 400 dollars, enfin acheter un iPad quoi, enfin vous avez aussi Facebook dedans et vous avez tous les enfin tout un panel d'utilisation autre qui me semble tout aussi bien, enfin je sais pas, j'ai vraiment du mal à m'enthousiasmer pour ça, pour un truc de Facebook. En plus, je sais pas si c'est vraiment bien adroit de la part de Facebook de lancer un tel produit. D'avoir en termes de vie privée des utilisateurs, etc. quoi.
C'est, ouais, c'est bon, ensuite personne n'est obligé de l'acheter, mais c'est vrai que c'est la caméra Facebook dans votre maison. À une époque où Facebook a vraiment un défaut d'image de marque dans ce domaine et dans le domaine de la vie privée. Bon, mais en même temps, ça montre l'importance de ce marché, je crois, des enceintes et des écrans. Bon, des écrans connectés, ça couvre beaucoup de choses, mais des enceintes à écran connectés, peut-être qu'on peut le dire comme ça.
Les écrans domestiques, quoi.
Oui, oui. Mais c'est l'importance de ce marché que même Facebook tente de s'y engouffrer. Bon, à voir. C'est vrai que... Ce qui est presque ironique, c'est qu'on va peut-être se dire « Ah oui, mais Facebook, la vie privée, c'est quand même un petit peu trop d'avoir aussi une enceinte à écran connectée. » Et du coup, on va se rabattre sur quoi ? Sur Google pour protéger sa vie privée. C'est quand même c'est quand même un choix un petit peu étrange, on va dire.
Vas-y, je te laisse enchaîner avec le truc d'après.
Oui,
d'après.
Bah, on enchaîne justement avec le truc d'après. Donc, il y a il y avait un bug dans Google Plus et dans son API que Google a, ou plutôt que le Wall Street Journal a révélé et que Google a confirmé. En fait, c'est comparable à ce qui a provoqué le scandale Cambridge Analytica avec Facebook il y a quelques mois. Bien sûr, si on n'en parle pas en début d'émission, c'est que il n'y a pas eu autant d'accès. À vrai dire, d'après Google, il n'y a eu aucun accès malicieux
plus,
ou illégal.
Pardon.
Oui. D'après, qu'est-ce que tu dis ?
Il y a aucun à Google Plus.
Aucun accès à Google Plus du tout. Oui, c'est ça. Ça concernait spécifiquement Google Plus et. Donc, moi, je veux bien les croire que si la vulnérabilité n'avait pas été découverte, ils n'ont pas eu tellement à souffrir de fuite de données. Là où c'est amusant, c'est que Google a décidé, suite à ce bug, d'enfin débrancher les machines qui tenaient Google Plus en survie artificielle. Et donc, Google Plus va tirer sa révérence d'ici quelques mois. Ça sera mi-2019, si je ne m'abuse. Bon, le réseau social, même si je sais qu'il a ses fans encore aujourd'hui, pour certaines utilisations spécifique. Il faut avouer que le réseau social est un petit peu devenu la ville du western qui est désertée avec les petits buissons qui roulent et le vent qu'on entend dans le fond. Voilà, la fin de Google+. Bien sûr, Kassim, toi, c'est une tristesse sans fin que tu ressens à cette annonce, j'imagine.
Ah bah, c'est sûr, depuis à Frandroid, là, depuis ce matin, on pleure la disparition de Google+, petit ange.
Parti trop tôt.
Après Google Plus pour de vrai, alors si blague à part et troll à part, bon, c'est un réseau social qui a jamais marché commercialement, mais un peu comme Windows Phone en son temps, il y avait des bonnes idées dedans, notamment cette histoire de gestion des cercles, etc. On va pas refaire l'histoire de Google Plus, mais bon, voilà, c'est comme ça. Google a jamais réussi. Finalement, le réseau social de Google qui a marché commercialement, c'est YouTube, quoi.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, réseau social, c'est une description un petit peu généreuse, oui, mais c'est vrai que... Oui, oui, non, t'as raison. Et surtout, ce qu'il est important de rappeler au moment de cette annonce, c'est que la raison pour laquelle Google avait lancé Google+, c'était cette idée qu'ils avaient besoin d'un réseau social pour accueillir des données sur leurs utilisateurs. pour pouvoir construire des profils utilisables. Ça a été lancé à un moment où Facebook en particulier prenait énormément d'importance sur le web. Et donc, l'idée était qu'il fallait avoir un réseau social pour savoir ce que les gens likaient. Je dis intentionnellement likaient plutôt que aimaient. Likaient, partageaient, etc. Donc, ça permettait d'avoir des données beaucoup plus précises sur vos utilisateurs. Et la raison pour laquelle ils ont un petit peu abandonné la chose, c'est pas qu'ils se sont dit « bon, bah finalement, on n'a pas besoin de données », c'est qu'ils se sont rendus compte que par tous leurs autres services, que ça soit la recherche, le mail, etc., ils réussissaient à avoir suffisamment de données sur leurs utilisateurs. Et donc, ils n'avaient plus besoin de ce réseau social pour cette raison. Donc, c'est important de le rappeler également. En tout cas, c'est l'analyse la plus commune, je pense, de ce qui s'est passé avec Google+. Tiens, parlons un petit peu de la Californie. On sait qu'ils ont voté une loi sur la neutralité du net qui était particulièrement forte, qui est d'ailleurs en train d'être remise en question par les grands opérateurs téléphoniques et même la FCC aux États-Unis, l'organisme qui est censé réguler les communications. En plus de ça, ils viennent de voter une loi qui oblige les compagnies publiques, donc cotées, à avoir au moins une femme sur leur board en 2019, d'ici 2019, deux en 2021 et trois ou plus pour les boards qui ont au moins six personnes. Donc, c'est intéressant parce que ça va affecter toutes les sociétés de la tech importantes qu'on connaît. La plupart d'entre elles sont basées en Californie. Donc, ça affecte bien sûr Apple, Google, Amazon, pas Microsoft. Leur siège est, si je ne m'abuse, à Redmond. Non.
À Seattle, quoi. Enfin, la région de Portland, Washington.
C'est ça, voilà, l'État de Washington, et qui est à ne pas confondre avec la ville de Washington. Mais oui, donc ça va affecter énormément de monde. C'est marrant de voir à quel point la Californie, qui représente une immense partie de l'économie américaine, de la force économique et culturelle américaine, et par certains aspects, bien sûr, pas par tous, hein, il ne faut pas non plus faire avaler des couleuvres aux gens, mais par certains aspects, est quand même hyper progressiste comparé à certains pays européens. Alors que chez nous, généralement, on est plus progressiste. Aux États-Unis, la Californie, et en tout cas, bon, c'est sur ces deux lois. Peut-être laissons les choses dans leur perspective. Sur ces deux lois, quand même, je pense qu'on pourrait considérer comme les bons choix, quoi.
Les États-Unis, d'une manière générale, la Californie, elle a tendance à faire figure d'exception, ou en tout cas d'être un peu, effectivement, à l'avant-front de ce genre de combat, quoi.
C'est certain. Et d'ailleurs, ils ont une population qui représente, une population et une économie qui représente l'un des plus grands pays du monde, si on prend juste l'État en considération. Donc, ils sont souvent à contre-courant du reste des États-Unis. Un petit truc intéressant, tiens, une collaboration, ou plutôt, on peut dire une collaboration entre Wikipédia et Internet Archive, deux organisations auxquelles je fais des dons très régulièrement. Vous savez que les sources de Wikipédia sont hyper importantes, il faut sourcer son travail quand on écrit des articles du type de ceux qu'on peut trouver sur Wikipédia. Et il y avait un gros problème avec le web qui est ce qu'on appelle le pourrissement du web. C'est pas les infox, oui on dit infox hein, et plus fake news, c'est pas les infox et les trolls, ou pas uniquement, mais plutôt le fait que les liens ont tendance à pointer vers des endroits qui disparaissent, des pages qui disparaissent, qui sont bougées, qui ne sont plus hébergées. Et donc, ce qui était utilisé comme référence sur Wikipédia avait parfois tendance à disparaître. Eh bien, l'Internet Archive, avec sa Wayback Machine, qui archive donc des versions différentes dans le temps de différents sites, a permis à ces sources d'être redirigées, non pas vers le site d'origine, mais vers sa version archivée sur le site de l'Internet Archive. C'est le cas pour 9 millions de liens qui n'étaient plus valides sur Wikipédia et qui ont été redirigés vers leur version archivée, ce qui est plutôt une bonne utilisation de ces services et un bon exemple de l'utilité d'initiatives comme l'Internet Archive, quoi.
Wikipédia, qu'on salue toujours, qui est quand même, je pense, la meilleure. Enfin, moi, je le dis souvent, c'est la meilleure chose qu'on ait créée sur Internet de loin. Enfin, il y a rien à redire quasiment, quoi. C'est le truc qui se vérifie lui-même. Il y a pas de pub. C'est gratuit. C'est financé par les dons des gens. Enfin,
c'est
au moins la meilleure chose qu'on ait créée sur Internet. Peut-être après le rendez-vous tech, à la limite. Mais...
Oui, et les deux sont gratuits et financés par leurs utilisateurs. Donc, c'est vraiment... on est d'accord. Le Wikipédia suit un modèle absolument idéal. Un truc intéressant à noter à propos de Wikipédia également, puisqu'on parle d'Infox, ils ont déterminé les éditeurs de Wikipédia qui sont en charge du contenu et de la manière dont est géré le contenu sur Wikipédia a déterminé que Breitbart, la publication américaine de droite, voire d'extrême droite, qu'on connaît bien, a été jugée comme une source non fiable et ne peut donc désormais plus servir de lien, de source en fait, pour les articles de Wikipédia. Si vous voulez établir un article sur Wikipédia, il va falloir trouver d'autres sources que Breitbart, parce que tout simplement, leur propension au sensationnalisme et à l'exagération, voire à la fabrication, fait qu'ils ne sont pas fiables. Là où c'est intéressant, on s'écarte un tout petit peu de la tech, mais ce qui est intéressant, c'est que ça peut évidemment évoquer des réactions fortes de la part de certains membres de la communauté merveilleuse de l'Internet, qui se sentent bafoués ou muselés. Là où c'est intéressant, c'est qu'il y a une semaine de ça environ, il y a eu une décision similaire qui a été prise à propos d'un média, là pour le coup, qui est plutôt de gauche, qui est même très de gauche, qui s'appelle Occupy Democrats, qui est dans la mouvance... Un site vraiment activiste dans la mouvance de Occupy Wall Street. Hein, on sent la similarité dans le nom. Et donc, c'est important de le signaler parce que c'est pas uniquement une question de tendance politique, mais vraiment une question de nature de l'information. Et je crois qu'il est... C'est ce genre de travail de fond et de travail qui est pas très marrant qui fait que on peut parfois avoir des sources qui sont fiables et d'autres qui ne sont pas fiables. Donc voilà, je trouve que c'est un travail, comme tu le disais, Kassim, qui est extrêmement habile et compliqué de la part de Wikipédia, qui est organisé entièrement par des volontaires et par des gens qui travaillent ensemble sans organisation, sans structure hiérarchique stricte, comme on pourrait le trouver si une société s'était dit « on va faire l'encyclopédie du monde sur le net ». Et c'est le genre de projet, comme tous les projets open source qu'on connaît ici ou là, qui prouve que ça peut fonctionner et fonctionne bien et même peut-être parfois mieux que d'autres. Donc c'est un petit peu ma lettre d'amour à Wikipédia, quoi.
Oui, puis à la limite, peu importe, effectivement qu'ils aient banni un site d'extrême droite ou un site d'extrême gauche, dans les deux cas, de toute façon, ce qu'il faut souligner, c'est le fait que si l'information qu'on voulait publier sur Wikipédia, dont on voulait faire un nouvel article, était vraie et facilement vérifiable, il y aura d'autres sources à trouver que Breitbart. Ce sera facile pour la personne qui voudra écrire l'article. Donc, c'est pas comme si on allait museler les personnes qui fréquentent ces sites. Ils peuvent très bien écrire toujours des articles. Il faut juste qu'ils trouvent d'autres sources. Et je suis sûr que si ce qu'ils disent est vrai, il y aura des sources pour le vérifier.
Ah, mais tu dis ça, mais tu n'es pas au courant des grands efforts de muselage et des biais qu'ont la tech, le monde de la tech. Contre, je sais pas, les braves gens de la droite stricte qui veulent juste exprimer leurs opinions. Je dis ça, tu sais, en même temps.
T'as du mal un peu.
Oui, un tout petit peu. Mais je pourrais dire en même temps, tu ne te rends pas compte de la cabale qui est faite contre les braves gens de droite ou de gauche, d'ailleurs, dans notre pays, qui fait que la presse les muselle et la presse est complètement aux ordres. Toute la presse est aux ordres de soit des intérêts du capital, soit des intérêts. Comment ils disent ça, les gens de nos amis du Front National? Des intérêts européens, de la mondialisation, tu vois, ce genre de choses. C'est des discours qu'on retrouve un petit peu partout, finalement. Ôtons-nous et extirpons-nous de cette faille dans laquelle nous sommes tombés pour donner un dernier exemple d'un moyen de combattre les infox. WeChat, qui est un réseau social très populaire en Chine, si je ne m'abuse, a essayé une nouvelle méthode pour combattre les infox. Je fais des efforts, hein. Vous voyez, je me plie aux demandes de la comédie française, de l'Académie française. Je me plie aux demandes de l'Académie française. Donc, pour combattre les infox, ils ont décidé de publier en haut de leur réseau social une dizaine d'articles qui expliquent les infox, les infox, les rumeurs, les théories du complot. Et c'est peut-être un moyen de combattre ces choses-là, de les présenter de manière éditoriale à un endroit du réseau social, peut-être pas forcément en première page, mais de dire voilà les sujets qui sont populaires en ce moment, voilà ce qu'on en pense sur tel et tel truc. Alors évidemment, on tombe dans des questions politiques qui sont parfois difficiles à extirper, mais c'est pas toujours le cas. Et peut-être que simplement cette intention éditoriale pourrait être un bon moyen de combattre à quel point ces infos se répandent. Je ne sais pas ce que tu en penses, Kassim. Est-ce que c'est efficace ou est-ce que bon, ça serait juste un moyen de plus de donner du grain à moudre aux gens qui pensent qu'on nous manipule ?
Efficace, en fait, on va devoir attendre qu'on ait des retours sur la façon dont ça va être mis en place. Et puis, le côté, justement, savoir si ça va être efficace ou pas, il faudra attendre. Quoi. Sinon, ça me semble être une idée intéressante et toujours est-il que toutes les idées, j'ai envie de dire que sur ce sujet, toutes les idées sont bonnes à prendre, puisque c'est vraiment le problème, c'est le mal du siècle, entre guillemets.
Ouais, on peut dire ça.
Non, mais en ce moment, en tout cas, c'est vraiment le problème, c'est vraiment un problème très récurrent sur Internet. Et donc, c'est intéressant de voir des réseaux sociaux qui vraiment se penchent vraiment sur la question, pas comme d'autres, comme Twitter, qui sont un petit peu plus discrets. voilà.
Ouais, bon, je sais pas si... Oui, bon, Twitter, il y aurait des choses à dire, mais c'est vrai que ce que tu dis est juste, il faut essayer un petit peu tout ce qu'on peut et puis voir ce qui fonctionne. Là, ça me paraît être une idée intéressante, à voir si elle va fonctionner. Et c'est sur ces bons mots qu'on va conclure notre émission et que je vais donc remercier une nouvelle fois Kassim d'avoir été présent avec moi pour détailler un petit peu tout ça. Si les auditeurs en veulent plus de ta part et de ton travail, où est-ce qu'ils peuvent aller ? Dis-moi tout.
C'est le moment où je fais ma promo. Ah,
c'est ça,
ça depuis
exactement.
Le début. Du coup, on peut me retrouver sur Twitter @notkassim et puis sur Fandroid. Et je voulais surtout souligner deux choses, deux petits points. On a lancé la saison 2 du podcast Salut Techy sur Fandroid, où on va recevoir régulièrement des invités. Et là, on a deux petits entretiens avec Olivier Frigara de On refait le Mac, où on revient sur le lancement de l'iPhone XS et où on revient sur les 10 ans de conflit un peu entre Android et iOS, les guerres des chapelles, bien sûr avec un sérieux qu'on nous connaît. Et puis, on a deuxième chose, on a lancé Vroom il n'y a pas longtemps, qui est un nouveau média, une marque lancée par Numérama, je vais y arriver, qui est dédiée, comme son nom l'indique, aux nouveaux moyens de locomotion. On en parlait un petit peu dans l'émission avec Peugeot. C'est exactement de ça dont on va traiter sur Vroom. On va traiter des nouvelles, toutes les nouvelles voitures autonomes, les services qui se lancent de partage, que ce soit scooter, mobylette, j'en sais rien, enfin tous les nouveaux moyens de locomotion, en tout cas, dont on parle de plus en plus souvent dans les émissions tech, tout simplement.
Et du coup,
avec Numérama.
Tiens, j'ai une question à propos de Vroom. C'est une sous-marque de Numérama, donc c'est uniquement sur le site de Numérama, ou est-ce qu'il va y avoir un site spécifique dédié ?
C'est uniquement sur Numérama, dans une rubrique qui est quand même bien dédiée, enfin qui vraiment change l'interface du site. Enfin, c'est vraiment.
Mais c'est pas vroom.fr, okay, ouais, quoi. C'est un élément du site Numérama. Dédiée.
Ouais, il y a juste un compte, des comptes sur les réseaux sociaux qui sont dédiés. Comme ça, si on veut juste s'informer cet élément-là, on peut simplement suivre Vroom. J'ai oublié le. Faut que je Vroom Vroom Tech, voilà. Twitter, par exemple. et on aura toutes les infos qui vont bien.
Super, merci beaucoup Kassim. Je dis ce qu'il en est pour ma part. Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez me suivre partout sur tous les réseaux sociaux que vous aimez pour avoir des infos exclusives et croustillantes. Non, j'en fais un peu trop. En tout cas, c'est Note Patrick partout. Vous pouvez également venir commenter l'épisode sur frenchspin.fr, commenter sur la qualité du réseau de Kassim. Qui parfois a fait un petit peu défaut dans cette émission, mais pas trop, je pense que ça ira. Ce coup-ci, ce n'était pas le mien. Là, moi, j'ai corrigé mes problèmes, donc ça ne venait pas de moi. Et vous pouvez également soutenir l'émission. Si vous pensez qu'elle vous apporte quelque chose, si elle vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur ces sujets un peu compliqués qu'on a évoqués, n'hésitez pas, patreon.com/rdvtech, vous choisissez $1, $2 ou $3 par épisode, comme vous voulez, un petit peu plus, un petit peu moins, c'est vous qui choisissez. Vous choisissez le nombre d'épisodes que vous soutenez par mois. Vous choisissez quand vous vous arrêtez. Ça prend 2 minutes pour s'inscrire. Franchement, qu'attendez-vous pour vous lancer, pour avoir le plaisir, la fierté d'être un patriote? Qu'attendez-vous? Rien, vous pouvez le faire tout de suite. Merci à vous tous qui choisissez de le faire. Je vous aime d'amour. On vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode et on vous fait de grosses bises. Ciao, ciao.
Ciao.